Chapitre 9.
S'il avait été un chien, Dilaf aurait grondé, voire écumé, se dit Ratten. L'Artet allait encore plus mal que d'habitude après une de leurs visites sur le mur. Le Gjorn se retourna pour contempler Elantris. Ils avaient presque rejoint leur chapelle, mais le monolithe colossal qui entourait la cité maudite restait visible. Quelque part à son sommet se trouvait l'irritante jeune femme qui, d'une façon ou d'une autre, avait réussi à l'emporter sur lui. « Elle a été magnifique », avoua-t-il soudain, malgré lui. Comme tous ses compatriotes, il nourrissait un préjugé patent à l'encontre du peuple Théwa. Le Théode avait banni les prêtres des Rétis 50 ans auparavant à la suite d'un malentendu, et n'avait jamais consenti à leur retour. Son roi avait même failli bannir aussi les ambassadeurs du Fjorden. Le Chudéret ne comptait aucun membre Théwa, et la maison royale théoise était réputée pour ses dénonciations mordantes de tout ce qui touchait à la foi des Rétis. Toutefois, trouver un adversaire capable de déjouer un de ses plans le stimulait. Il prêchait depuis si longtemps avec un art si consommé de la manipulation qu'il ne rencontrait plus guère de défis dans son activité cléricale. Sa réussite 6 mois plus tôt au Duladel montrait qu'on pouvait même détruire un pays sans coup férir, pourvu qu'on possède quelques talents. Hélas, l'opposition s'y était révélée inexistante. Les Dulas étaient trop ouverts, trop accueillants pour présenter un défi. Une fois le gouvernement réduit à néant, Ratten s'était senti déçu. Ça avait été trop facile.
« Oui, » ajouta-t-il.
« Elle est impressionnante. »«
Et maudite entre tous, » siffla l'Artet. « Elle appartient à la seule race que le seigneur Jadet déteste. »
C'était donc ce qui tourmentait son subordonné. Nombre de Fjordel rangeaient les Théwa parmi les causes perdues. Un raisonnement ridicule, mais qui fournissait un substrat théologique à la haine envers les vieux ennemis du Fjorden. De toute évidence, Dilaf nourrissait la même opinion.
« Jadet ne déteste que ceux qui le détestent, » dit le Gjorn.
« Il le déteste. »
« La plupart ne connaissent même pas son nom. Leur roi est maudit pour son injonction contre les prêtres des Rétis, oui, mais on n'a jamais donné sa chance au peuple. Une fois que l'Arelon aura cédé, il sera temps de s'occuper du Théode, qui ne résistera guère face à l'ensemble du monde civilisé.
« Il sera détruit, » prophétisa Dilaf avec un regard brûlant. Jadet refusera d'attendre que nos Artet prêchent sa parole en vain à des cœurs endurcis.
Le seigneur Jadet ne pourra venir qu'une fois tous les hommes unis sous la bannière du Fjorden, Artet. Le Gjorn s'arracha à sa contemplation des Lampris pour pénétrer dans la chapelle.
Cela comprend les Théwa.
Sidilaf répondit dans un souffle, chaque mot résonna.
Il y a un autre moyen. Jadet reviendra lorsque tous les êtres humains vivants seront unis. Les Théwa ne constitueront pas un obstacle si on les annihile. Une fois que le dernier aura poussé son dernier soupir et que le feu aura purifié la surface de la Cyclade de toute présence élantrienne, tous les hommes suivront le Virn et le seigneur Jadet se relèvera.
Parole dérangeante. Ratten venait sauver l'Arelon, non le détruire. Il serait peut-être nécessaire de saper la royauté, voire de répandre un peu de sang bleu, mais le résultat final serait la rédemption d'une nation entière. Pour le Gjorn, unir l'humanité signifiait convertir ses membres à la foi d'hérétis, pas tuer les incroyants. Certes, il pouvait avoir tort. Le Virn semblait à peine plus patient que Dilaf, comme en témoignait le délai maximum de 3 mois alloué à son grand prêtre. Ratten éprouva soudain un sentiment d'urgence. Le Virn avait parlé. L'Arelon serait converti ou détruit.
Jadet, qui êtes en dessous,
murmura Ratten. Il n'invoquait sa divinité que dans les moments les plus sacrés. Qu'il ait raison ou tort, il ne tenait pas à avoir sur les mains le sang d'un pays entier, hérétique ou non. Il devait réussir. Par bonheur, sa défaite s'avérait moins totale que sa reine ne l'avait cru. Quand Ratten rejoignit le lieu de la réunion, une vaste suite dans l'une des meilleures auberges de Caë, la plupart des nobles qui l'avaient invité l'attendaient. Le sermon sur le mur des Lantris ne constituait qu'une partie de son plan visant à convertir ses hommes. Il hocha la tête.
« Je vous salue, mes seigneurs.
Inutile de prétendre que tout va bien entre vous et nous, prêtre, »
lança Idan, un des nobles les plus jeunes et les plus véhéments.
« Vous avez promis que vos paroles offraient du pouvoir.
Tout ce qu'elles paraissent avoir amené, c'est le pouvoir de troubler les esprits. »
Le Gurn balaya l'argument d'un revers de la main. Mon discours a dérouté une simplette. On raconte que la blonde princesse a du mal à différencier sa main gauche de la droite. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me comprenne. Mais vous, messire Idan, vous avez tout de même saisi le message.
L'autre rougit.
Bien sûr, monseigneur, mais je vois mal en quoi nous convertir nous donnerait du pouvoir.
Le pouvoir, messire, réside dans la perception que votre ennemi a de vous.
Raten, flanqué de l'omniprésent Dilaf, traversa la pièce à grands pas et se choisit un siège. Certains Gurn parlaient debout pour intimider l'assistance, mais lui, il préférait s'asseoir. Le plus souvent, la position assise mettait ses auditeurs, surtout ceux qui restaient debout, mal à l'aise. Captiver son public sans le dominer de toute sa taille donnait l'impression que vous maîtrisiez la situation. Bien entendu, Idan et les autres ne tardèrent pas à s'asseoir aussi. Le Gurn s'accouda, puis croisa les doigts et considéra l'assistance sans mot dire. Son front se plissa lorsqu'il avisa au fond de la pièce un homme, la quarantaine bien sonnée, richement vêtu. Sa tache de naissance violine lui mangeait la gauche du visage et du cou, un trait distinctif du duc Tellry. Raten ne l'avait pas invité. Il s'était borné à contacter de jeunes nobles, croyant qu'il aurait peu de chances de séduire les puissants. Les jeunes hommes impatients de s'élever dans l'aristocratie étaient souvent plus faciles à manipuler. Il allait devoir s'exprimer avec prudence ce soir-là. De cette réunion pouvait résulter une alliance formidable. Idan s'agitait sous son regard.
« Bon, quel est cet ennemi ?»«
Les Élantriens, » répondit simplement le Gurn. Il sentit Dilaf, assis près de lui, se contracter à l'énoncé de ce nom. Idan se détendit, gloussa et décocha des regards amusés à certains de ses compagnons.
« Des cadavres vieux de 10 ans ne constituent guère une menace !»«
Non, messire. Ils ont survécu. »
Si l'on veut.
Je ne parle pas des pauvres bâtards enfermés dans la cité, mais des Élantriens qui survivent dans l'esprit des gens. Idan, dites-moi, avez-vous déjà rencontré un homme qui pensait qu'il reviendrait un jour ?
L'autre ne riait plus. Il réfléchit à la question.
Yadon n'a rien d'un monarque absolu, reprit Raten. Il passe plutôt pour un régent. Nul ne s'attend à le voir régner longtemps. Beaucoup de gens tablent sur le retour de leurs chers Élantriens et considèrent le Réode comme une illusion. Une mise à l'épreuve qui révélera ceux qui sont restés fidèles au culte païen d'autrefois. Vous les avez entendus évoquer Elantris à mot couvert. Il parlait d'expérience. Il séjournait à Caë depuis quelques jours à peine, mais pendant ce temps, il avait tendu l'oreille et effectué des recherches, même s'il exagérait ce qu'il avait pu découvrir.
« Le roi ne voit pas le danger, » enchaîna-t-il d'un ton posé. « Son règne est toléré plutôt qu'accepté. Tant que les gens disposeront d'une preuve matérielle de la force d'Elantris, ils continueront de la craindre. Et tant qu'ils craindront quelque chose plus qu'ils ne craignent leur roi, aucun de vous n'aura de pouvoir.
Vos titres vous viennent de Yadon. Votre pouvoir dépend de lui. S'il est impuissant, vous l'êtes aussi. » Il l'écoutait à présent. En chaque noble se dissimulait un timoré incurable. Le Gurn n'en avait jamais rencontré qui ne soit plus ou moins persuadé que les paysans riaient de lui sous cape.
Le Shukorat est tout aussi ignorant du danger. Comme les Korati négligent de dénoncer les Élantriens, l'espoir se perpétue. Aussi rationnel que ce soit, les gens veulent croire au retour d'Elantris, une cité qu'ils imaginent grandiose après une décennie de fabulation pour l'embellir. Les autres lieux et les autres temps passent bien souvent pour meilleurs. Afin d'asseoir votre domination sur la Rélone, mes amis, il faudra abolir cet espoir stupide, libérer le peuple de cette emprise.
Idan opina avec enthousiasme.
Le Gurn eut une moue de déplaisir. Le jeune noble se laissait persuader trop aisément. Comme souvent, le plus disert était le moins perspicace. À en juger par leur expression, les autres aristocrates hésitaient, même s'ils trouvaient dans son discours matière à réflexion. Tellry, pour sa part, palpait un gros rubis à son doigt tout en observant Raten, un air songeur sur son visage plus mûr. Cette incertitude était bonne. Dans son inconstance, Idan se détournerait de la cause aussi vite qu'il l'aurait embrassée. Le Gurn changea alors subtilement d'approche.
« Dites-moi, messeigneurs, avez-vous voyagé dans les pays de l'Est ?»
Plusieurs hochèrent la tête. Depuis des années, la région en question voyait affluer les Arélois venus visiter le vieil empire. Pour Raten, ces aristocrates de fraîche date, encore moins sûrs d'eux que leurs pareils bien établis,
ressentaient le besoin de démontrer leur raffinement en s'associant avec des royaumes tels que le Svorden, l'épicentre culturel de l'Est. Si vous avez visité ces grandes nations, vous êtes au fait de l'influence dont bénéficient ceux qui s'allient avec le clergé d'Ereti. Il s'agissait peu ou prou d'une litote. À l'est des montagnes d'Atreki, aucun roi ne régnait sans professer son allégeance aux Chudéret, et les postes désirables et lucratifs allaient toujours aux fidèles de Jadet les plus diligents. Sa phrase contenait une promesse implicite. Quelque autre sujet qu'ils abordent, quelque autre argument qu'ils avancent, seul ce sous-entendu les convaincrait. Les prêtres d'Ereti ne faisaient pas mystère de leur intérêt pour la chose publique, et on savait qu'obtenir le patronage de l'Église suffisait souvent à s'assurer la victoire politique. Ces nobles n'espéraient rien d'autre. Les récriminations de la Théoise les avaient laissés de marbre, car ils se moquaient des débats théologiques. Pour eux, le Chudéret ou le Chukorat, cela revenait au même. Ce qui leur importait, c'était de savoir que leur manifestation de piété leur vaudrait en retour divers avantages non point spirituels, mais temporels, des avantages tangibles, voire sonnants et trébuchants. « Assez joué sur les mots, prêtre, » dit Raméar, un des plus jeunes de l'assistance. Fils puiné d'un baron sans importance, l'homme avait un nez pointu aonique, un visage en lame de couteau et une réputation de franchise apparemment méritée. « Je veux des promesses. Êtes-vous en train de dire que nous convertir à la foi d'Ereti nous rendra plus riches ?»« Jadet veille toujours à récompenser ses fidèles, » dit le Gurn sans s'engager. « Comment pourrait-il nous récompenser ? Le Chudéret ne détient aucun pouvoir dans son royaume, prêtre. » »« Le seigneur Jadet détient du pouvoir en tout lieu. » Le Gurn décida de couper court à d'autres questions. Certes, à ce jour, il y a peu de fidèles en Arelon. Mais le monde change, et peu d'obstacles peuvent résister à l'empire de Jadet, mes amis. Souvenez-vous du dieu Ladel. Nous avons laissé l'Arelon de côté pendant longtemps parce que nous n'avons pas pris la peine de le convertir. Un mensonge, quoique véniel. Le problème principal, c'est Elantris. Effacez la ville de l'esprit des gens, et ils pencheront vers le Chudéret, puisque le Chukorat est trop tranquille, trop indolent. Ils s'aviseront de la grandeur de Jadet et chercheront des modèles dans les rangs de l'aristocratie, des hommes pénétrés des mêmes idéaux qu'eux. Et c'est alors que nous serons récompensés ? Le peuple ne supportera pas des dirigeants aux croyances différentes des siennes. Comme l'histoire récente nous l'a montré, mes amis, les monarques et les monarchies n'ont rien d'éternel. Raméar s'adossa à sa chaise pour peser les déclarations du Gurn. Raten devait rester prudent. Il se pouvait que seuls certains de ses nobles finissent par le soutenir, et il ne voulait pas fournir aux autres de preuves à charge. Le roi Yadon, tout laxiste qu'il soit en matière de religion, ne tolérerait guère un prosélytisme qu'il jugerait séditieux. Plus tard, quand le Gurn sentirait une véritable conviction chez ses aristocrates novices, il leur ferait des promesses plus concrètes. Quoi que puissent dire ses adversaires, il tenait toujours parole. Même s'il détestait travailler avec des gens vénaux, le Chudéret récompensait bel et bien l'ambition. En outre, posséder une réputation d'honnêteté permettait de mentir au moment opportun. « Il faudra du temps pour saper une religion et en installer une autre à sa place », dit d'une voix pensive Varenne. Mince, les cheveux si blonds qu'il paraissait blanc, l'individu était connu pour sa piété. Raten avait été surpris de le voir accompagner son cousin Idan à cette réunion. Sa foi relevait donc moins de la ferveur religieuse que du calcul politique. Sa personne et sa réputation aideraient beaucoup la cause. « Vous seriez étonné, messire. Tout récemment, le Duladel demeurait le siège d'une des religions les plus anciennes au monde. Or, selon les archivistes Fjordel, elle a totalement disparu, du moins sous sa forme originelle. » La chute de la religion Jeskeri et de la République couvait depuis des années, voire des siècles. Vous ne sauriez nier que le dénouement n'a guère pris de temps. L'autre marqua une pause. « Je vous l'accorde. » Elantris est tombé vite. Le changement peut se produire à une allure stupéfiante, messire, mais ceux qui s'y sont préparés ont tout loisir d'en profiter de manière substantielle. Selon vous, la chute du Jesker se préparait depuis des années. Ma foi, je pense que la religion Korati décline depuis aussi longtemps. Elle dominait dans l'Est. À présent, son influence se limite au Théode et à l'Arelon. Varenne prit un air pensif. Il paraissait intelligent, retors et prêt à accepter le raisonnement de Raten. Le Gurn songea qu'il avait pu mal juger les nobles d'Arelon. Quoique aussi désespérant que leur roi dans leur ensemble, il semblait, pour un nombre étonnant d'entre eux, assez prometteur. Il devinait sans doute ce que leur position avait de précaire. Leur peuple mourait de faim, il manquait d'expérience et l'Empire Fjordel avait des vues sur leur pays. Quand l'orage s'abattrait, l'immense majorité de leurs compatriotes resterait stupéfaite, comme des rats surpris par une lumière vive. Ces quelques individus, toutefois, vaudraient peut-être les efforts consentis pour les sauver.
« Messire, j'ose espérer que vous examinerez mes propositions avec plus de sagesse que votre souverain. Des périodes difficiles s'annoncent. Toute personne qui se sera privée de l'appui de notre Église aura la vie dure pendant les prochains mois. Rappelez-vous qui je représente. Rappelez-vous, Elantris !» siffla la voix de Dilaf à côté de Raten. « N'oubliez pas le cloaque qui pollue notre pays. Les Elantriens dorment et ils attendent, aussi matois que jamais. Ils attendent de vous capturer, tous autant que vous êtes, et de vous étouffer dans leur étreinte. Vous devez en débarrasser le monde avant qu'ils ne le débarrassent de vous. »
Un silence gêné s'ensuivit. Enfin, plutôt que de tenter de renouer le fil de son discours après l'éclat de son art-tête, le Gjorn s'adossa à sa chaise, mains entrelacées, pour signaler la fin de la réunion. Les nobles s'enfuirent, préoccupés par la décision ardue qui leur demandait. Il tâcha de déterminer avec lesquels il pourrait reprendre contact sans danger. Idan le suivrait, ainsi forcément que plusieurs de ses partisans. Ramehar l'imiterait, pourvu que Raten le rencontre en privé et l'assure de son soutien. Deux ou trois autres exigeraient le même traitement. Et Varen l'observait d'un regard empreint de respect. Il y aurait moyen d'accomplir de grandes choses avec celui-là. Il formait un groupe peu influent, mais c'était un début. À mesure que le Chudéret attirerait des fidèles, des nobles plus réputés rejoindraient la cause. Quand le pays finirait par s'effondrer sous la pression conjointe du désordre politique, de la crise économique et des menaces de guerre, le Gjorn octroierait à ses fidèles partisans des postes dans le nouveau gouvernement. Le personnage clé de ce succès futur, encore assis au fond de la pièce, observait sans un mot le départ des autres. Le duc avait l'air calme et digne, mais sa réputation d'extravagance était riche de possibilités.
« Messire Tellery, un moment, je vous prie, » demanda Raten en se levant de son siège. « J'ai une proposition bien spécifique à vous soumettre qui pourrait vous intéresser. »